6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
7h56 sur France Culture, l'heure de retrouver Lionel Nakache. Bonjour Lionel.
Bonjour Quentin.
Et vous nous proposez ce matin une charade philosophique, c'est cela ?
Absolument, et nous ne sommes pas si loin de l'écriture automatique. Alors mon premier Quentin signifie « oui » en russe.
Alors j'imagine que c'est « da ».
Absolument, donc mon second est le nom de famille d'un célèbre entrepreneur français, fondateur de Free.
Alors j'imagine que vous pensez à Xavier Niel.
Donc Niel, absolument. Mon troisième est un petit cube à six faces, utilisé dans divers jeux.
Ça c'est le « dé », évidemment.
Voilà, ça c'est plus simple. Et mon dernier est le contraire de flou.
Net.
Et mon tout est le nom d'un des plus grands philosophes contemporains, décédé le 19 avril dernier.
Daniel Dennett, merci beaucoup de m'avoir écrit toutes ces réponses d'ailleurs.
Merci, c'est un beau dialogue socratique. Voilà. Daniel Dennett était un philosophe américain d'une érudition et d'une intelligence extrême. Il a révolutionné la philosophie des sciences et la philosophie de l'esprit. Son érudition, rappelons-le, embrassait philosophie analytique et continentale, mais couvrait également de larges pans dans des sciences naturelles et notamment des neurosciences cognitives. Quant à son intelligence aiguë, provocatrice et truculente, elle a stimulé la conscience de nombreux chercheurs. Alors, pourfendeur des fausses apories qui paralysent la pensée, Dennett avait le génie d'écarter les pseudo-obstacles à une conception matérialiste de la vie mentale à l'aide de démonstrations simples et profondes. Par exemple, tenez, considérez un objet riche de sa masse et occupant un certain volume. À la question de savoir si ce bout de matière possède des propriétés immatérielles, la réponse est trivialement oui. Cet objet possède par exemple un centre de gravité. Or, un centre de gravité est un point mathématique, c'est-à-dire qu'il n'occupe aucun volume dans l'espace, n'a ni surface, ni longueur, ni masse. Bref, le centre de gravité est bel et bien une propriété immatérielle d'un objet matériel. Aussitôt, l'idée d'envisager la vie mentale comme des propriétés immatérielles de cerveau et de corps qui interagissent échappe à l'aporie d'un dualisme prétendument indépassable. Sur cette lancée, Dennett proposa que notre conscience pourrait être défini comme un centre de gravité narratif. À la chasse des conceptions corps-esprit dualistes qui se jouent à l'insu de leur plein gré chez de nombreux chercheurs en neurosciences, Dennett a élaboré la lumineuse métaphore du théâtre cartésien.
Alors Lionel, est-ce que Dennett abordait aussi les difficultés posées par une conception matérialiste de la vie mentale ?
Absolument, il ne les fuyait pas. Et Dennett a par exemple critiqué l'idée commune d'un lieu et d'un temps cérébral précis de la prise de conscience d'une information. Et pour cela, dans son chef-d'œuvre Consciousness Explained, il a comparé le cerveau à l'Empire britannique et commenté un événement de la guerre anglo-américaine. Alors, un traité de paix fut signé à Gand le 24 décembre 1814. Mais le 8 janvier 1815, eut lieu une terrible bataille à la Nouvelle-Orléans que les Britanniques perdirent. Aucune des deux armées engagées au combat n'était informée de la signature du traité de Gand. Dennett a alors imaginé comment les informations ont pu circuler au sein de l'Empire de Sa Majesté. L'annonce de la signature du traité de Gand a sans aucun doute été propagée à pied, à cheval, en train et en bateau à voile, aux quatre coins de l'Empire. L'information n'est arrivée à la Nouvelle-Orléans qu'après la bataille qui y eut lieu. Dennett a même supposé que l'information de cette bataille aurait très bien pu parvenir en Inde, alors joyau de la couronne britannique, plusieurs jours avant l'arrivée de l'annonce de la signature du traité de paix. Dès lors, à quel instant cette guerre a-t-elle pris fin ? À Gand le 24 décembre ? Ou plutôt deux semaines plus tard à l'issue de la bataille de la Nouvelle-Orléans ? Et que penser du point de vue du gouverneur général du Bengale, qui aurait été informé de ces deux dates dans l'ordre inverse de leur survenue ? De la même manière, l'idée d'une datation précise d'un événement mental conscient apparaît pour Dennett comme un objectif illusoire dans le microcosme de notre cerveau. Il est en réalité possible de répondre à cette critique très pertinente, mais ce que j'aimerais surtout souligner, Quentin, c'est que la pensée si originale de Dennett a stimulé la créativité et l'inventivité de nombreux chercheurs et grands philosophes des sciences, et notamment de la théorie de l'évolution. Une ultime coïncidence ne manquera pas de stimuler nos fictions conscientes. Le 19 avril, date de la disparition de Daniel Dennett, est également celle de Charles Darwin.
Merci beaucoup Lionel Nakache de cette écriture non automatique.
Non automatique, mais quand même.
Et merci à vous d'être à l'écoute de France Culture, il est 8h. Le journal